Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sunderlight Production.
Cela fait presque un mois et demi que je me questionne sur la place du sucre dans notre alimentation. Et depuis le début de cette aventure, j'ai pu m'apercevoir de la diversité des formes de sucre. La famille des glucides regroupe aussi bien les fibres, les amidons, les sucres et les polyols. Et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver parmi tout ça. La plupart d'entre nous se contentent de distinguer les sucres qui sont naturellement présents, dans les fruits, dans le lait par exemple, et les sucres ajoutés qui sont si souvent décriés. On entend beaucoup dire que nos cellules ont besoin de sucre. En fait, notre corps a surtout besoin de glucose, qui fait office de carburant. Mais ce n'est pas nécessairement du sucre. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui s'interrogent plus particulièrement sur les sucres lents et leur rôle dans notre alimentation. Par ailleurs, on me parle aussi beaucoup des régimes cétogènes ou encore low carb qui connaissent un vrai essor depuis quelques années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les régimes qui excluent une partie des aliments m'ont toujours laissé perplexe. Mais j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur cette vision de l'alimentation. Ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous avec Tiffany, ma nutritionniste, dans quelques instants. Je compte bien profiter de ce rendez-vous pour faire avec elle un premier bilan sur mon aventure 93 jours sans sucre ajouté. Je vais également lui demander des précisions sur les typologies de sucre afin de m'aider à y voir plus clair dans tout ça. J'aimerais aussi avoir son avis sur les féculents et les dangers ou bienfaits pour la santé des régimes sans glucides. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Tiffany. Salut Tiffany, comment vas-tu ?
Salut Guillaume, ça va bien et toi ?
Bah écoute, ça va très bien, je suis en plein dans mon défi 93 jours.
Ça fait combien de temps là du coup maintenant ?
Eh bien écoute, je suis à la moitié du chemin, je t'avoue qu'il y a des hauts, il y a des bas dans ce défi sans sucre ajouté. C'est pas tous les jours simple, mais bon, je tiens le coup et j'essaye d'aller voir les meilleurs spécialistes pour répondre à mes questions et aussi faire en sorte que ce défi soit le plus simple à vivre et surtout réalisé dans les meilleures conditions.
Bah, je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tout cas de positif là depuis début janvier ?
Bah effectivement, j'ai déjà remarqué des effets positifs avec le défi sans sucre ajouté, même si ça fait finalement que un mois et demi, bah c'est suffisant pour voir les premiers résultats. Alors y a rien de transcendant, mais déjà ce que je peux te dire, c'est que bah c'est vrai que j'appréhendais beaucoup le fait de me passer de sucre ajouté parce que c'est vrai que c'est voilà, je suis assez gourmand, mais finalement le sucre ne me manque pas de manière continue. On va dire c'est plus sur certaines périodes de la journée où ça va être délicat, mais c'est quand même minoritaire. On va dire dans 80% des cas, le sucre ne me manque pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis après, pour ce qui est des bénéfices physiques, j'ai remarqué un meilleur gain d'énergie. C'est vrai que j'ai l'impression d'être plus productif. Il y a moins de fluctuations d'énergie. Voilà, c'est beaucoup plus continu. J'ai remarqué ça. Alors, rien de transcendant encore une fois. C'est assez léger, c'est assez subtil, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être plus dynamique.
Ouais, bah ça, c'est essentiellement dû au... Finalement, à ta glycémie qui est assez stable, quoi, parce que plus on mange sucré, bah, surtout les sucres rapides, mais ceux dont on avait parlé au premier épisode. Mais c'est vrai que plus tu manges des sucres rapides, bon, bah, plus tes cellules peuvent les consommer rapidement, mais donc ça a une courte durée de vie dans ton organisme. Et un peu comme quand on est dopé à la caféine ou à la clope, on a besoin d'en reconsommer régulièrement pour se maintenir à un certain niveau de forme. Et là, du coup, sans ces sucres-là, bon, bah, t'es plus stable, t'es plus constant dans la journée.
Bah, déjà, comme en plus, j'avais l'habitude de sucrer légèrement avec un petit peu de miel mon café,
ouais.
Chose que maintenant je ne fais plus.
Ouais.
Bah, c'est vrai que je consomme moins de café, donc ça déjà, c'est aussi peut-être quelque chose d'un petit peu mieux.
Ouais, moi je l'avais déjà remarqué, moi, des personnes qui sucrent tout leur café. Donc, j'ai pas de problème à boire souvent du café. Dans une certaine mesure quand même. Mais par contre, quand on sucre tous ces cafés, bon, bah, il faut soit soit se dire je n'en sucre aucun ou j'en sucre un ou deux ou je mets un peu de lait pour l'adoucir, ou alors carrément je limite le café parce que je n'aime pas le café noir, quoi.
Mais ce qui est assez surprenant, c'est que alors au début, tu sais, moi j'ai les cafetières italiennes, donc c'est une petite cafetière, mais le café, il est quand même assez, c'est pas l'expresso, quoi. Le café, il est quand même assez dilué.
Oui.
Et au début, sans cette petite touche de miel que j'avais l'habitude de mettre dans mon café chaque matin, le café, je le trouvais vraiment mauvais, quoi. C'est-à-dire, c'était quasiment imbuvable. Alors je le buvais parce que effectivement, voilà, j'avais quand même besoin de ce petit, j'ai mes habitudes, et puis c'est vrai que ça me donne vraiment un petit peu d'énergie, donc j'aime bien commencer ma journée avec un café. Puis c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, donc c'est dur de s'en dépêtre. Et au début, c'était vraiment mauvais.
Ouais.
Et puis au bout d'un mois, mais quasiment du jour au lendemain, là, je me revois plus sucrer mon café, quoi. J'ai vraiment, comme si le goût, la perception avait changé, le goût avait changé. Alors je le dilue avec un petit peu d'eau, en fait,
ouais.
En plus, donc il est encore plus dilué avec un petit peu d'eau, et je trouve très bon maintenant. Donc c'est marrant la perception, mais en peu de temps, quoi, 3-4 semaines, j'ai repris plaisir à boire un café sans sucre, manger un yaourt nature sans mettre un petit peu de miel dedans.
Ouais.
Même si je pourrais très bien mettre un petit peu parce que le miel est en naturel. C'est vrai que je veux pas non plus. Voilà, j'ai une quantité quand même de sucre naturel par jour que j'ai pas envie de dépasser. Tout de suite, si je voulais aussi me réhabituer à manger sans sucre, donc c'était ça l'enjeu. Et le goût, finalement, les aliments sont très fades au début, et après, on a vraiment le goût qui change, quoi.
C'est comme le sel et le sucre, c'est deux substances qui sont les papilles gustatives au niveau de la langue, elles sont très réceptives à ces substances là un peu comme l'amer et l'acide aussi. Et autant on peut être très addict, autant quand on se déshabitue, on ne se voit pas revenir en arrière. Et c'est même le cas quand on réduit le sel et quand on réduit le sucre. Hein. Même si tu peut-être que tu as hâte de retrouver les produits sucrés après ton challenge, je suis pas sûre que tu les apprécieras autant que ça. Ou alors tu te sentiras écœurée beaucoup plus rapidement.
On va voir ce que ça va donner. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai quand même moins faim.
Ouais.
J'ai tendance à, par exemple, avant je finissais toujours mes assiettes. Et là, j'ai tendance, alors je les finissais pas. Donc maintenant, j'ai réduit un petit peu les quantités. Alors, encore une fois, on n'est pas dans un effet qui est spectaculaire, mais c'est vrai que à table, en tout cas, j'ai l'impression de manger un petit peu moins. Je suis plus vite rassasié.
Alors ça, c'est le sucre et le sel étant deux substances qui attisent aussi notre goût, et c'est pour ça qu'on en devient addict. C'est parce que ça stimule notre cerveau pour qu'on se resserve et pour qu'on en remange encore plus. C'est vrai que plus tu manges nature, plus finalement ton corps s'arrête de manger quand il a couvert ses besoins, et il n'a pas besoin de plus parce que on devient moins gourmand, quoi.
D'accord. Et oui, après, forcément, tu manges un peu moins de cochonneries ou de produits sucrés. Donc, tu culpabilises un peu moins, tu as une meilleure estime aussi. Donc, ça, c'est quand même assez agréable, même si c'est pas tout le temps facile.
Oui, et puis si tu ressens que tu as moins faim, peut-être que tu as moins, le grignotage et la faim, c'est deux choses différentes, parce que le grignotage est surtout psychologique. Quand on grignote, on a rarement une faim viscérale, hein. On a rarement l'estomac qui gargouille et qui serre, hein. Mais on va dire que si ton cerveau a des sucres pour fonctionner, mais la juste dose, et qu'il les absorbe, on va dire, de façon régulière et lente, parce que tu te concentres sur les sucres lents et non pas sur les sucres rapides, ton corps ne va pas te demander, on va dire, de recharger les batteries régulièrement, parce que ce que tu manges, ça a une longue durée de vie maintenant dans ton organisme.
D'accord. Sinon, en termes de poids, j'ai pas noté une perte de poids significative. Alors, j'ai perdu à peu près 800 grammes, 800 kg 2 en fonction des jours. On va dire, j'ai plutôt arrondi à 800 grammes. J'ai repris le sport, donc forcément c'est normal de perdre du poids. Je pense que c'est pas du tout lié au sucre, alors que j'ai quand même vraiment réduit ma consommation de sucre journalière, parce que même je fais attention quand même à pas me goinfrer de fruits non plus, à faire vraiment attention. Donc j'ai divisé par 3 ma consommation de sucre, et pourtant pas de perte de poids significative. Donc ça, je savais que j'allais reperdre avec le sport, hein. Il n'y avait pas forcément un objectif de perte de poids, mais par rapport à tout ce qu'on peut entendre, moi en tout cas, chez moi, je ne constate pas du tout de corrélation entre une perte de poids et peut-être parce que si avant je consommais très sucré mais je faisais aussi beaucoup de sport, j'ai une alimentation qui est quand même assez équilibrée, donc je perds du poids mais de manière très raisonnée et c'est normal, hein. Voilà, presque un kilo en un mois et demi, ça me semble quand tu as une alimentation équilibrée tout à fait cohérent et voilà, pas d'effet spectaculaire sur la perte de poids, en tout cas sur ce que je trouve perso.
Ouais, après c'est vrai que t'as repris le sport de façon, enfin à ce que j'ai pu comprendre en tout cas, de façon progressive par rapport au rythme que tu pouvais avoir sur l'hiver dernier, donc les dépenses énergétiques sont sans doute moindres que d'habitude, mais le challenge sans sucre, même si dans ton inconscient tu souhaitais perdre peut-être du poids plus rapidement, au départ, c'est pas fait pour perdre du poids, c'est fait vraiment pour un peu comme tout sevrage, hein, pour sentir qu'on n'est pas addict à quelque chose et qu'on est maître et maîtresse de notre alimentation et de nos envies alimentaires et qu'on a la possibilité d'avoir de l'énergie sur le long terme sans dépendre de certains aliments et notamment ce qui est industriel. Et après, si l'alimentation de quelqu'un était essentiellement composée de produits sucrés et industriels, si son alimentation devient du jour au lendemain super saine et faite maison, etc., il y aura significativement une perte de poids. Par contre, quelqu'un qui mangeait déjà très sainement, qui faisait déjà beaucoup de cuisine à la maison et qui mangeait pas tant de choses industrielles, sauf quelques grignotages, la petite cuillère de miel, etc., le corps va pas sentir un changement brutal qui peut le faire déstocker rapidement. Mais déjà, un kilo sur un mois, on va dire que moi, c'est la moyenne que je conseille à quelqu'un quand il souhaite perdre du poids. C'est, oui, entre 800 grammes et 2 kilos par mois. Ça dépend des profils et des objectifs de perte. Mais quand il n'y a pas de restriction alimentaire associée, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus rapide. Ce n'est pas forcément l'objectif parce que le but, c'est de ne pas reprendre le poids que tu perds aussi, hein, quand le challenge sera terminé.
Exactement, oui. Et ça, je sais qu'il y a, faut que j'aurais repris le sport et que il y a très très peu de chances que je reprenne du poids, c'est même quasiment sûr parce que c'est voilà, ça fait quand même longtemps où je suis très très stable sur mon poids. Là, j'avais pris un peu de poids parce que confinement, parce que je m'étais un peu lâché, parce que j'avais arrêté le sport. Mais même si c'est plus long, je sais que c'est des choses qui vont durer, donc je suis voilà, c'est pas, je soulignais parce que voilà, c'était, on entend des fois des choses, en tout cas c'est peut-être des fois un peu plus compliqué que ça. Sinon, bah écoute, c'est vrai que par rapport au défi végétarien, tu vois, la viande ne me manquait pas du tout. J'avais pas de sentiment de manque, j'avais pas de sentiment d'exclusion sociale, parce que voilà, aujourd'hui dans les restaurants tu trouves quand même beaucoup de plats, en plus moi j'habite à Paris, donc tu trouvais quand même beaucoup de plats végétariens, c'était pas ça ne me manquait pas. C'est vrai que sur le moral, c'est beaucoup plus dur le sucre, non pas forcément le côté grignotage, mais quelquefois tu sais, c'est l'envie de te faire plaisir avec une bonne mousse au chocolat, c'est là récemment on est allé dans une boulangerie avec des amis à moi pour aller chercher un petit menu, bah voilà, tout le monde a pris un petit dessert, une pâtisserie, bah c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué, ça a joué sur mon moral, ça m'a un peu miné. Et oui, ça fait vraiment du bien de temps en temps de se faire un petit dessert. Il y a eu la galette des rois par exemple au début de ce challenge que j'ai pas pu manger. C'est vrai que c'est des petits rituels qui me manquent, surtout qu'en France on est quand même un pays de pâtisserie. Moi c'est quelque chose que j'adore. C'est ce petit côté, c'est vraiment que les produits sucrés, les desserts ont vraiment cette capacité de remettre du baume au cœur, de vraiment apporter un petit peu de gaieté des fois au repas, à notre journée, ou le côté un petit peu festif quand on veut fêter des anniversaires, quand on veut fêter des grandes occasions. C'est vrai que le sucre est souvent lié à ces grands événements. Et c'est vrai que sur le moral, c'est des fois assez dur. Et il y a des fois où vraiment je m'en veux de mettre l'ancien dans un défi comme ça, quoi. Au début c'était 3-4 semaines, c'était facile. Là, passer un mois, ça commence à devenir un peu embêtant. Ouais.
Bon, l'avantage c'est que la période des galettes des rois et des couronnes des rois c'est terminé. Mais c'est vrai que la pâtisserie, comme tu dis, c'est très français, hein. Tu vivrais en Asie que les desserts, tu n'y penserais même pas parce que c'est pas dans la culture. Nous, on a grandi avec. La saveur sucrée, c'est la seule que les enfants tolèrent les premières années de leur vie, parce que les autres, c'est même pas la peine d'y songer. Notamment les nouveau-nés, il y avait eu des expériences qui avaient été faites en mettant un tout petit peu de sucre sur la langue d'un nouveau-né. C'est la seule saveur qui détend les traits du visage, hein, tu vois. Tout le reste, ça fait pleurer. Donc non, c'est vraiment une saveur qui agit sur une zone du cerveau qui est spécifique à notre morale, au réconfort, à la récompense. C'est aussi en lien avec ce que tu as vécu dans l'enfance, dans ton adolescence, au début de l'âge adulte. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais heureux ou quand tu étais triste? Si c'était des produits sucrés, bah ça va rester. Ça va rester en toi. Et puis, on est aussi très stimulé par la vue. Hein, parce que bah tu vas croiser une boulangerie, tu vas voir des desserts. Tu vas aller dans des magasins, il y aura des produits sucrés. Donc, c'est aussi parce qu'on est stimulé par l'extérieur plus que parce qu'on en a envie réellement. T'en aurais pas du tout sous les yeux, peut-être que tu trouverais pas ça si difficile que ça.
C'est sûr. Après, avec moi, je t'assure que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je peux très bien apprécier du fromage avec un bon dessert en fin de repas. Les deux sont compatibles. Mais effectivement, et puis ça confirme quelque chose que je pensais auparavant, c'est-à-dire que pour moi, dans l'alimentation, chaque aliment a sa place. Le tout, c'est la quantité. Même le sucre blanc peut avoir de l'intérêt dans l'alimentation, notamment en pâtisserie. Si j'ai envie de me faire un moelleux au chocolat ou des cookies ou je ne sais quoi, j'ai pas forcément envie d'utiliser du miel ou un substitut au sucre blanc, parce que ça va pas avoir le même goût que je vais rechercher. Donc le problème, c'est vraiment la quantité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser depuis très longtemps, parce que je m'interroge. On parle souvent de bons et de mauvais sucres, comme si bah voilà, il y a des sucres qui sont bénéfiques et d'autres qui sont presque maléfiques. Et quand on regarde un peu dans le détail, c'est vrai que les personnes qui parlent de bons sucres, ils font souvent référence au sucre naturel, donc le miel, le sirop d'agave, enfin ce genre de choses, en expliquant qu'il y a plus de nutriments dans ces sucres-là. Mais quand on regarde dans le détail, c'est ce que j'ai fait, je m'aperçois que, alors oui, il y a plus de nutriments dans ces sucres-là que dans le sucre de table, puisque dans le sucre blanc, il n'y en a quasiment aucun de toutes les manières. Mais même avec les sucres naturels, si on regarde niveau nutriments, on est quand même sur des quantités qui sont infimes par rapport à des aliments qu'on peut trouver à l'état naturel, comme les légumes, les fruits ou ce genre de choses. Alors, est-ce que finalement le sucre, ça reste pas du sucre, et que cette histoire de bon et de mauvais sucre, on n'est pas plus dans quelque chose de peut-être un petit peu d'imaginaire, parce que voilà, on a tendance à survaloriser tout ce qui est naturel, mais dans la réalité, on est plus sur du symbole.
Ouais. Alors, ce qu'il faut vraiment quand même éviter, c'est les sucres extrêmement transformés, c'est-à-dire réduits sous forme liquide, comme les sirops de glucose fructose, sirop de fructose, le sirop de malt, le sirop de riz, etc. dans les produits industriels, parce que ça, clairement, c'est comme si on te perfusait du sucre liquide dans le sang, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui là, pour le coup, il y a aucun effort digestif à produire. Après, le sucre de table, comme tu l'appelles, c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser le sucre blanc et on va plus facilement vers du sucre roux, cassonade, sucre complet et j'en passe. Or, caloriquement, c'est exactement la même chose. Entre du sucre blanc qui est à 100% de glucose et le sucre, par exemple, roux, qui a 99,5% de glucose, on va dire que tu as 0,5% de minéraux, quoi. De minéraux, de fibres, mais c'est rien. C'est rien. Et puis, ouais, pour c'est les. Rien. Ouais, c'est pas dans le sucre cassonade qu'on va trouver des nutriments, quoi. Après, pour le miel et le sirop d'érable, c'est plus intéressant quand même que le sirop d'agave, parce que le sirop d'agave, c'est du sirop de fructose. C'est du fructose. Donc en fait, c'est une forme de sucre qui est métabolisée par le foie, donc ça a tendance à engorger un peu le foie, et d'où les maladies du foie sur le long terme qui sont dues à des consommations excessives de soda en tout genre, parce que c'est extrêmement riche en sirop de fructose. Donc ne pas surconsommer le sirop d'agave. Le sirop d'érable, bon, il a un indice glycémique moyen. Donc, il est plus intéressant, mais il n'a pas beaucoup de nutriments non plus. Seul le miel, je dirais, a des nutriments. On ne peut pas appeler ça des nutriments parce que on n'absorbe pas des vitamines et des minéraux en quantité suffisante dans une cuillère de miel. Par contre, si le miel n'est pas chauffé, s'il est consommé à froid, il aura quand même des vertus antibactériennes, antifongiques, enfin pour le système immunitaire. On prend souvent du miel pour les maux de gorge, pour voilà, même on applique du miel sur des blessures pour qu'elles cicatrisent. Enfin, non, ça a quand même des vertus, mais dans les quantités où on en mange, finalement c'est pas si, enfin, spectaculaire que ça, et c'est pas les nutriments des bons sucres qui vont couvrir nos besoins, on va dire, nutritionnels quotidiens. Mais entre du sucre blanc et du sucre roux, il se passe pas grand-chose comme étape. Hein. Voilà. Donc, et puis en plus, bon, quand on aime bien le local, etc., le sucre français, c'est le sucre de la betterave sucrière et c'est un sucre raffiné blanc. Hein. Voilà, donc on s'est débarrassé des enveloppes, mais l'enveloppe du... Comment dire ? L'enveloppe du sucre entre du sucre roux et du sucre blanc, ou entre de la vergeoise et du sucre blanc, elle n'apporte pas grand-chose. Il y a pas la même notion nutritionnelle qu'entre, par exemple, du riz complet et du riz blanc. Ou là, en fait, entre une céréale complète et une céréale raffinée, ou entre deux farines, on va voir une différence nutritionnelle. Entre deux sucres, franchement, on voit pas grand-chose. Donc, on utilise vraiment le sucre qui va pour la recette, surtout quand on en utilise peu souvent et pour des recettes particulières. Moi, je conseille toujours, quand on veut faire une vraie pâtisserie, ben, on utilise le vrai sucre qui va avec pour obtenir le résultat que l'on souhaite à la fin, parce que utiliser du miel ou du sucre très, très, très foncé pour faire un cake au citron ou une brioche, ben, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc, pour pas rater les recettes et être déçu ou quoi, surtout quand c'est ultra ponctuel, on respecte les choses. Hein. C'est la fréquence et la quantité quotidienne qui est problématique.
Ok. Hyper intéressant. Justement, tu parles de fructose, il y a le glucose,
saccharose.
Saccharose, pardon, lactose, maltose. En fait, il existe une multitude de sucres. Elles n'ont pas forcément tous le même effet, je crois savoir, sur l'organisme. Toi, tu nous recommandes de consommer lesquels, de quels on doit privilégier essentiellement. C'est vraiment...
Bah, il y a le galactose aussi, qui en fait fait partie du lactose, c'est-à-dire que le lactose, par exemple, le sucre naturel du lait, c'est une association de deux molécules, une molécule de galactose et une molécule de glucose. Le saccharose, c'est le sucre en poudre, c'est vraiment la molécule de sucre, du sucre, clairement du sucre, et là c'est les molécules de glucose qui sont collées entre elles, donc c'est deux molécules de glucose. Le maltose, lui, c'est une dégradation, c'est un sucre qui est issu d'une dégradation en général de l'orge ou du maïs. Et c'est à partir de ça qu'on a, par exemple, du malt d'orge dans la bière, dans le sirop de malt, dans des produits industriels. Donc, je dirais que le maltose, c'est le moins intéressant parce que on obtient un sucre très transformé et pour le coup trop vite absorbable à partir de lui. Le lactose, c'est le sucre naturel du lait que tu retrouveras même dans un yaourt nature. Donc celui-là, on ne s'en passe pas. Ce n'est pas un sucre. On ne peut pas comparer le saccharose, le maltose et le lactose. Le lactose, lui, c'est le sucre naturel du lait. Et celui-là, voilà, il n'y a pas du tout besoin de s'en séparer. Le saccharose, c'est celui qu'on retrouve dans le sucre en poudre. Donc le moins on en consomme, le mieux on se porte. Mais... si c'est consommé de façon très très ponctuelle et dans des produits qui valent le coup, on peut ne pas s'en passer complètement. Le fructose, c'est le sucre naturel des fruits frais et des fruits secs. Donc, ça fait partie des sucres qui sont intéressants et naturels pour le coup parce qu'on en retrouve vraiment dans les végétaux. Pas d'excès non plus et pas sous forme de sirop si possible parce que tout ce qui est sous forme de sirop est bien trop vite absorbé. Donc il vaut mieux le sucre, on va dire, d'un fruit frais que d'un sirop de fruits ou d'un nectar de fruits par exemple. Et puis le glucose, finalement c'est le substrat de nos cellules et c'est ce qu'on obtient après dégradation de tous les sucres que l'on a avalés. Donc finalement, en avalant du lactose, on obtiendra du glucose. En avalant du saccharose, on obtiendra du glucose au final, quoi. C'est ce qui est présent dans tous les produits qui contiennent des glucides et c'est ce que mangent nos cellules, le glucose. Donc, c'est le sucre le plus indispensable qui soit. Après, il faut surtout choisir les sources de glucose qui sont les meilleures pour nous.
Merci beaucoup, Tiffany, d'avoir pris le temps de m'expliquer toute cette diversité. Au niveau du sucre, c'est vrai qu'on ne se doute pas qu'il y ait autant de classifications. Donc, c'est bien d'avoir pris le temps pour bien comprendre les spécificités de chaque sucre. J'aimerais maintenant qu'on parle plus particulièrement des sucres lents. Parce que j'ai reçu quelques messages sur les réseaux sociaux. Alors, tu sais que sur les réseaux sociaux, des fois, il y a un peu à boire et à manger. Mais il y a certaines personnes qui soulignaient le fait que je consomme encore du riz, des pâtes ou encore du pain. Et selon eux, c'est des véritables bombes à sucre, ces aliments. Alors, il y a pas mal de régimes aussi. Tu sais que voilà, il y a des modes aussi autour des régimes. Et du coup, moi, je m'interroge sur les sucres lents. Est-ce que vraiment on peut les mettre sur les mêmes pieds d'égalité que les sucres rapides? C'est quoi ton avis par rapport à ça?
Ouais, bah moi, je suis absolument pas pour toutes les pratiques cétogènes, low carb et j'en passe. Et les féculents, ça reste la source principale de glucose hein, dont on parlait. Et il suffit juste de bien les choisir et de surtout bien les cuire. Parce que quand on dit que les féculents sont des bombes à sucre, c'est pas des bombes à sucre. C'est juste que quand on cuit un peu trop le riz pour faire des sushis ou un risotto, quand on cuit un peu trop les pâtes parce qu'on les a mis hyper fondantes, quand on consomme des pains extrêmement cuits comme les cracottes ou les biscottes, forcément, on appelle ça, alors bombe à sucre c'est un peu fort, mais ce sont des féculents qui étaient censés être des sucres lents et qui deviennent des sucres rapides parce que la cuisson longue et à forte température a complètement dégradé les molécules. Et c'est un peu comme la différence entre une pomme de terre cuite à l'eau et une purée mousseline. La purée mousseline, elle est extrêmement digeste. Pourquoi ? Parce que il y a eu une dégradation du produit en amont de la digestion qui est énorme. Donc, il faut consommer des féculents, ça c'est sûr. Par contre, ne pas pousser trop les cuissons, garder de la texture, garder de la mâche. Il faut pouvoir mastiquer les aliments et non pas les avaler tout droit comme si on n'avait plus de dents. Et normalement, la digestion après se fait assez lentement et on obtient de l'énergie, très, très constante et très progressive. Mais faut faire une différence entre les pâtes al dente, les pâtes trop cuites, le riz trop cuit et puis du riz semi-complet cuit normalement. Enfin voilà, il y a de grosses différences entre les féculents et entre leurs méthodes de cuisson.
D'accord, donc je comprends mieux pourquoi les pays où on consomme beaucoup de pâtes, je pense notamment à l'Italie, la mangent al dente parce que ils la mangent très croquante, pas du tout fondante. Donc peut-être qu'ils avaient compris ça et c'est vrai qu'il y a toujours ce mythe autour des pâtes qui font grossir. Est-ce que ça fait grossir ou pas de manger des pâtes? Et quand on regarde les Italiens qui en consomment quand même beaucoup par rapport à la France, il y a statistiquement beaucoup moins d'obèses en Italie parce que justement ils ont cette cuisson là. Pareil pour la Chine où on consomme beaucoup de riz, en tout cas la Chine traditionnelle. J'ai pas l'impression que les Chinois soient plus obèses que les Français, bien au contraire. Mais c'est vrai que et on en revient toujours à la question de la quantité. On a tendance peut-être à consommer trop de pâtes dans l'alimentation moderne et moi-même le premier. C'est vrai que j'adore ça, j'aime l'en manger. J'en consomme peut-être un petit peu trop. Après, en bonne quantité, c'est loin d'être un aliment toxique, même si certaines personnes ont peut-être tendance à la diaboliser. Si on regarde par exemple le taux de mortalité en Italie, c'est l'un des pays où on vit les plus vieux en Europe. C'est même avec l'Espagne, les deux pays où on vit le plus vieux en Europe. Ça prouve bien que y a pas de corrélation, c'est pas un aliment toxique.
En fait, plus les choses sont peu cuites, alors faut quand même que ça soit un minimum cuit pour que ce soit digeste, mais plus les choses sont peu cuites, plus on va les mastiquer, donc plus on va mettre de temps à les manger. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre plus de temps pour manger, pour mâcher, et on va alerter un peu plus notre cerveau que l'on a suffisamment mangé aussi, puisque ce qui est important pour être rassasié et pour ne pas avoir envie de manger trop ou de grignoter après le repas, c'est d'alerter le cerveau qu'on a suffisamment mangé. Et l'action des mâchoires entre en jeu. Hein. Donc, il faut absolument mastiquer pour être rassasié. Et on ne peut pas mastiquer indéfiniment des produits extrêmement mous. Hein. C'est assez limite. Hein.
Effectivement, il y a aussi cette donnée-là qu'il faut prendre en compte. Écoute, en tout cas, Tiffany, merci de m'avoir apporté ces précisions, d'avoir répondu à mes questions. Je vais continuer mon défi. En espérant que les choses se terminent bien pour moi.
Ben oui, mais t'inquiète pas, la saison, on va dire, des petits écarts de l'hiver se termine, on va aller rapidement vers le printemps et ton palais va se déshabituer, ça sera de moins en moins difficile.
J'espère, j'ai hâte qu'on soit au printemps et puis si à la suite de ce défi j'arrive à peut-être consommer moins de sucre qu'avant, peut-être le réduire par deux ou par trois, je pense que ce sera déjà une belle victoire. Parce que c'est vrai que le zéro sucre ajouté, c'est quand même, ça peut être quand même usant sur le long terme.
Ouais, mais ça demande, en tout cas, de lire les étiquettes. Enfin, quand on découvre un petit peu ce domaine-là, c'est vrai que ça demande réflexion sur la composition de ses repas et sur la lecture des étiquettes quand on achète des produits en magasin. Mais après, ça devient plus naturel et quand on connaît les produits que l'on peut manger, entre guillemets, on va vers eux naturellement, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs.
Et si j'avais su, j'aurais fait mon défi l'été, parce que l'été, il y a quand même plus de fruits à disposition que l'hiver. À l'hiver, il n'y a quand même pas grand-chose. Les clémentines, je commence à avoir fait un peu de
bah, rien ne t'empêche de le faire t'été aussi, hein, de le continuer.
ça va, voilà. Je vais aller au bout déjà, et puis sans craquer. Et après, voilà. Mais bon, c'est quand même une expérience super, super sympa à faire. Et ça m'a vraiment permis déjà de déshabituer mon palais au sucre. Et ouais. Je vois vraiment les gains et les bénéfices que ça, ouais, que ça m'apporte. Donc, je suis quand même très content. C'est le côté zéro qui est quand même un peu plus compliqué. Mais c'est ce qui fait partie de la beauté du défi. Et puis ça me permet aussi de pouvoir d'avoir quelque chose de peut-être d'assez exigeant, mais aussi qui me permette plus de m'investir aussi dans ça. Donc, c'est peut-être par là où il fallait que je passe.
Impec. Bon, je suis contente que ça te se passe bien. Et puis, de toute façon, on se revoit dans un prochain épisode. Donc, bon, je te dis à bientôt et bon courage pour la suite.
C'est toujours un plaisir de discuter avec Tiffany et c'est vraiment un avantage de bénéficier du soutien du nutritionniste. Tiffany m'aide à construire mes repas et à procéder à mon rééquilibrage alimentaire que j'ai un peu négligé avec toutes ces périodes de confinement. Par ailleurs, cet accompagnement m'apporte un vrai plus d'un point de vue motivationnel. Avoir des experts à mes côtés me permet non seulement d'améliorer mes compétences sur différents sujets, mais en plus de bénéficier d'un vrai soutien. Avec tout ça, j'ai presque oublié de vous donner des nouvelles sur ma reprise sportive. Mais rassurez-vous, je n'oublie pas ce point-là. Surtout qu'après quelques semaines de réadaptation physique, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Dans la course à pied, le sucre joue un rôle clé. Énergie, ravitaillement, récupération, son rôle est essentiel pour plusieurs raisons. Mais rassurez-vous, je vais bientôt m'intéresser à tout ça plus en détail. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour me donner vos conseils, vos idées et surtout m'encourager. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.